Ouvrir la parole de Dieu, donc le thème que nous allons partager ce matin concerne le jeûne et la prière. Le jeûne et la prière, faisons une lecture dans le livre du Lévitique au chapitre 16 et au verset 29 à 31. Voilà, donc on a les références qui s'affichent. Vous pouvez suivre dans la parole de Dieu, Lévitique chapitre 16, verset 29 à 31. C'est ici pour vous une loi perpétuelle. Au septième mois, le dixième jour du mois, vous humilierez vos âmes, vous ne ferez aucun ouvrage, ni l'indigène, ni l'étranger qui séjourne au milieu de vous, car en ce jour, on fera l'expiation pour vous, afin de vous purifier. Vous serez purifiés de tous vos péchés devant l'Éternel. Ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos. Vous humilierez vos âmes. C'est une loi perpétuelle. Amen. Le jeûne et la prière, on en trouve un certain nombre de mentions dans la parole de Dieu. Notamment dans l'Ancien Testament, c'est souvent le synonyme de « vous humilierez vos âmes », cette expression « humilier son âme ». Donc le jeûne est une pratique religieuse que l'on retrouve dans de nombreuses peuplades à travers l'Antiquité, que ce soit les Orientaux, que ce soit les Hindous, les Égyptiens, et notamment ici le peuple hébreu et les Juifs ont pratiqué bien sûr le jeûne. Et par la suite, lorsqu'il y a eu Jésus, lui-même a pratiqué le jeûne, mais les chrétiens aussi ont jeûné. On a l'exemple de Paul, par exemple, l'église d'Antioche, etc. Donc, le jeûne a existé de tout temps, seulement nous pouvons le vivre de différentes manières. Et c'est surtout sur cet aspect-là qu'il nous faut bien comprendre ce que signifie le jeûne. Alors, on va voir le premier point qui est la définition. Définition. Qu'est-ce que le jeûne ? Première question, qu'est-ce que le jeûne ? Eh bien, le jeûne, si on essaie de le définir ensemble, c'est l'abstention volontaire. Alors, je souligne le mot volontaire. Abstention volontaire de nourriture pendant une période variable. L'autre chose importante, c'est que c'est pour passer ce temps dans la prière. Le jeûne est associé à la prière, à la méditation, à la recherche de Dieu. Il ne s'agit pas de ne pas manger volontairement sans passer du temps dans la prière. Comprenez que le jeûne, dans le sens biblique, est associé à passer du temps, à profiter du temps qu'on aurait consacré au repas pour le passer avec Dieu. Donc, par exemple, l'heure du repas, eh bien, c'est se tenir dans la présence de Dieu. Bien sûr, il est conseillé de boire, même si on s'abstient de manger, ce qui permet de bien supporter le jeûne. Dans les temps bibliques, le jeûne généralement durait la journée. Le deuxième petit point, ce que le jeûne n'est pas. Car il nous faut bien éclaircir ce qu'est le jeûne par rapport à ce qu'il n'est pas. Le jeûne n'est pas une abstention de nourriture pour raison médicale. Ça peut arriver que votre médecin vous dise, ou avant une opération, vous n'avez pas le droit de manger. C'est pas le jeûne. Ça, d'ailleurs, c'est pas volontaire. On vous l'impose. Donc, c'est pas le jeûne. Le jeûne, c'est pas une grève de la faim. Il y a des gens qui font la grève de la faim, ça existe, mais c'est pour obtenir des choses. Donc ils disent peut-être en faisant la grève, je vais influencer. La grève de la faim n'est pas associée à la prière. Ce n'est pas un jeûne. Le jeûne n'est pas non plus une privation de nourriture du style quand il y a une famine ou quand il y a un manque d'approvisionnement. Ce n'est pas volontaire, c'est un inconvénient, mais ce n'est pas un jeûne. Et puis le jeûne, ce n'est pas non plus un repas décalé. Qu'est-ce que j'entends par repas décalé? Eh bien, c'est de dire, tiens, je vais jeûner, par exemple, entre 1h30 et 13h30, et puis à 13h45, je vais manger. Ça s'appelle un repas décalé. Le jeûne, en fait, en lui-même, ce n'est pas simplement le fait de manger, de ne pas manger pendant le temps du repas, mais c'est de ne pas manger pendant la période jusqu'au lendemain ou jusqu'au repas suivant, etc. Donc, il faut bien comprendre la différence entre le jeûne et le fait de décaler un repas. Alors, on prie pendant le temps de midi, on dit qu'on jeûne, mais si on mange juste après, ce n'est pas effectivement un jeûne, dans le sens biblique. Ensuite, le troisième partie, c'est la sagesse. Troisième point, la sagesse. car quand on décide de jeûner, de prier, il nous faut avoir une réflexion, une sagesse. La plupart des chrétiens, effectivement, peuvent jeûner sans problème. Mais cependant, dans certains cas, il faut être prudent. Quand on a des problèmes de santé, quand on est atteint de certaines maladies, il n'est pas conseillé de jeûner. Quand on suit certains traitements médicaux, quand on a des faiblesses physiques, quand on a un âge avancé, les femmes enceintes, etc., il y a certaines conditions dans lesquelles il ne faut pas le faire comme ça d'une manière inconsidérée. Donc, quand je parle de sagesse, il s'agit de se connaître soi-même, de connaître ses limites, de connaître ce que l'on peut faire, ce que l'on ne peut pas faire. Car, je le répète, le jeûne, c'est un acte volontaire, c'est une décision que vous prenez entre vous et Dieu. On ne doit pas vous l'imposer, vous le décidez de votre cœur, et on ne doit pas non plus faire n'importe quoi sous prétexte qu'on dit on va jeûner, et puis on se jette comme ça dans le jeûne, d'une manière irréfléchie, inconsidérée. Non, un jeûne, ça se prépare. Alors, quand je dis on ne doit pas se forcer soi-même, on ne doit pas forcer non plus un enfant à jeûner, par exemple. Ça vous viendrait peut-être pas à l'idée, mais c'est arrivé à l'idée d'une certaine personne dans la région de Perpignan qui fréquentait une église sans être membre et qui a eu cette folie de faire jeûner son enfant de 3 ans. C'est grave, c'est très grave. Car on ne peut pas faire jeûner un enfant comme cela d'une manière inconsidérée, et c'est si grave que l'enfant est décédé. Elle n'a pas pris de précaution, elle a fait n'importe quoi, et nous arrivons à des cas extrémistes qui ne sont pas de Dieu, mais qui sont des folies qui passent par la tête des gens. Alors, il ne faut pas prendre cet exemple en disant « le jeûne n'est pas bon ». Le jeûne, c'est quelque chose de bon, mais on ne fait pas n'importe quoi, n'importe comment. Tout doit être fait avec équilibre et avec sagesse. Alors, quand je parle de l'exemple de cet enfant, c'est une dame qui a jeûné quand même sur une période de 60 jours environ. C'est quelque chose d'immense. Donc il y avait là quelque chose dans son esprit qui n'était pas vraiment équilibré. Et elle devra rendre des comptes à la justice pour l'acte qu'elle a fait, parce que en fait, elle a permis la mort de cet enfant, qui est le sien. Donc c'est grave. Je ne sais pas si elle a vraiment réalisé qu'est-ce qui se passait. Ce sont des choses qui nous font mal au cœur, et qui ne doivent pas arriver au milieu du peuple de Dieu. Nous devons veiller donc à jeûner de la bonne manière. Le jeûne, je parlais de la grève de la faim, mais il ne faut pas croire que le jeûne, c'est une grève de la faim pour forcer Dieu à changer d'avis, par exemple, ou forcer le bras de Dieu. Parce que si on le prend comme ça, ce n'est pas bon. Le jeûne, ce n'est pas vouloir dire tant que Dieu, voilà, je vais jeûner, je vais faire la grève de la faim, je vais prier, non. Nous jeûnons parce que Dieu nous y pousse, Dieu nous y conduit. Deuxième chapitre, c'est l'enseignement de Jésus. Alors, j'ai pensé qu'on pouvait commencer par là. Le premier verset, donc le premier point dans l'enseignement de Jésus, c'est son exemple. Alors, vous pouvez suivre avec les références. Il y a Matthieu chapitre 4, versets 1 et 2. « Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. » Alors, premier exemple, c'est Jésus lui-même a jeûné dans... Là, c'est avant son ministère, et il a pratiqué d'une manière assez intensive. Il a passé beaucoup de temps dans le jeûne et dans la prière. La question qu'on peut se poser, est-ce que Jésus avait besoin de jeûner? Est-ce qu'il en avait vraiment besoin? En tant que fils de Dieu, est-ce qu'il ne pouvait pas exercer son ministère directement? Certainement, il avait tous les pouvoirs, toute autorité pour le faire. Mais il nous a, en jeûnant lui-même, il nous a montré un exemple. De même que quand il priait, il nous a montré un exemple. Il nous a montré un exemple de piété. Et il l'a fait, et ainsi il nous montre, bien c'est la voie pour se préparer. Là, dans ce cas-là, c'était pour se préparer à un service effectif. Donc il a passé un temps de jeûne et prière. Dans son jeûne, remarquez ceci, c'est que Jésus n'a pas été épargné par la tentation. On peut penser que dans le jeûne, on est tellement proche de Dieu qu'on ne va pas avoir de problème, tout va bien, le jeûne va bien se passer. Et on se rend compte, si on regarde le jeûne de Jésus, il a été drôlement attaqué pendant ce jeûne. Satan en personne est venu pour le déstabiliser. Et ça, c'est aussi une vérité. Il se trouve que les attaques sont encore plus violentes quand on fait un jeûne et prière. C'est pour ça qu'il faut être, quand je disais, il faut savoir ce qu'on fait et se préparer à ce qu'on fait. Il y aura le découragement et peut-être cette voix du diable qui vous dira, ça ne sert à rien, tu ferais mieux d'arrêter. Comme le diable a tenté Jésus, il l'a tenté par la nourriture. Donc il est dit que Jésus, il avait faim. C'est ce qu'on a lu tout à l'heure. Il eut faim. Et bien le diable s'est servi de cela pour le piéger. Et il lui a dit, ben, demande que ces pierres deviennent des pains, tu en as le pouvoir. C'est la satisfaction immédiate. Jésus a dit non, il est écrit, etc. Il citait la parole de Dieu. Et puis le diable est revenu à la charge et lui a dit, mais si tu montes sur le temple, que tu te jettes du haut du temple, les anges viendront à ton secours. Ça, c'était la tentation de l'orgueil spirituel. Et sans passer par la croix, Jésus aurait pu être considéré comme le Messie. Voilà, une autre forme d'orgueil, une autre forme de tentation. Et il a été poussé au péché, toujours dans son temps de jeûne. Et enfin, par les richesses et les biens matériels, le diable lui a montré toutes les richesses du monde. Prosterne-toi devant moi et adore-moi, tu auras toutes ces choses. Et Jésus a rejeté à chaque fois. Alors, il faut bien réaliser que quand on va jeûner, on va éprouver certaines difficultés spirituelles de la part de l'ennemi qui va nous attaquer, nous tenter. D'autre part, quand on jeûne, il y a aussi certaines sensations physiques, comme la faim. Alors c'est l'exemple de Jésus, vous voyez, il est dit « il eut faim », mais effectivement, quand on jeûne, surtout d'une manière prolongée, ne serait-ce qu'une journée ou deux, trois jours, eh bien la faim, véritablement, se fait sentir. C'est-à-dire que l'estomac, il réclame sa pitance, il veut se remplir. C'est un besoin naturel. Et il fera tout, donc votre moi profond fera tout pour dire « tu ferais mieux d'arrêter, tu vas manger ». Ça, c'est la chair. Et le jeûne permet à l'âme, en fait, d'être libérée de la pression de la chair qui veut vous entraîner toujours dans le péché. Ça permet, en fait, des victoires sur nous-mêmes. Alors, nous aimons naturellement manger. Ça, c'est quelque chose que la plupart des gens, ils aiment bien. Mais quand il s'agit de jeûner, c'est différent. Parce que là, il y a un combat immédiat contre soi-même. Oui, pour un repas, il n'y a pas de problème. On va manger, c'est facile. Mais pour passer le même temps dans le jeûne et la prière, ça c'est un combat, ça c'est difficile. Et pour aimer le jeûne, il faut dire ceci, c'est que la chair doit être tenue en bride. Pour aimer le jeûne, la chair doit être crucifiée. Si elle n'est pas crucifiée, vous n'arrivez pas vraiment à jeûner. En général, la plupart des êtres humains rechignent devant l'effort. Dès qu'il y a une difficulté, on essaie de la contourner. On préfère généralement monter par l'ascenseur que de prendre les escaliers, c'est moins fatigant. Ou si on a un livre à lire, on préfère lire le résumé, si on n'a pas le temps, c'est moins fatigant, etc. Tout est comme ça chez nous, on a tendance quand même à rejeter l'effort. Et même chez le chrétien, il aspire un petit peu dans son inconscient à une bénédiction instantanée, comme ça, sans effort, sans rien faire. Eh bien, que Dieu fasse tout pour moi, tout en moi, ça ne me coûte rien, j'ai rien à faire, et puis Dieu fait tout. Bien, on se rend compte qu'il y a des étapes dans la vie chrétienne où Dieu nous demandera le prix à payer. Le jeûne et la prière en fait partie. Le jeûne demande un effort. Le jeûne engendrera une certaine souffrance. Et le jeûne est un combat spirituel aussi. On l'a vu avec les attaques du diable. Donc vous avez tout ça dans le jeûne. Et on se rend compte que là, les volontaires pour le jeûne et la prière ne sont pas légion. Aussi nombreux que quand on va organiser un repas, là oui, il n'y a pas de problème, ça ne pose pas de difficulté de manger. Mais si on organise un jeûne et prière, vous verrez qu'il y a toujours beaucoup moins de monde qu'à un repas, une agape. Et pourtant, le combat spirituel, l'importance du jeûne et prière est bien expliquée dans la Bible. Et en tant que chrétiens, nous devons saisir que notre place en tant qu'enfant de Dieu, eh bien, c'est d'être dans le combat, dans le jeûne, rechercher sa face, nous humilier, etc. On verra les buts du jeûne par la suite. Mais si on suit notre tendance naturelle, on dira non, c'est pas pour moi. Mais si on se laisse conduire par l'Esprit de Dieu, vous verrez qu'il vous poussera, il vous aiguillera pour que vous alliez passer du temps dans le jeûne et la prière. Je dis bien que ce n'est pas forcé, ce n'est pas une obligation, mais c'est poussé par l'Esprit de Dieu. D'ailleurs, si on regarde Jésus, c'est poussé par le Saint-Esprit, il est dit qu'il alla dans le désert passer les 40 jours de jeûne. Donc c'est bien dans ce sens-là que nous le comprenons. Deuxième point toujours dans ce chapitre, c'est pourquoi les disciples de Jésus ne jeûnent-ils pas? Une question qui a été posée dans Matthieu chapitre 9 et au verset 14. et on peut la lire ensemble. Matthieu chapitre 9. Verset 14. Alors les disciples de Jean vinrent auprès de Jésus et dirent: pourquoi nous, les pharisiens, jeûnons-nous, nous et les pharisiens jeûnons-nous, tandis que tes disciples ne jeûnent point? Jésus leur répondit: les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront. Et soulignez bien dans la parole: et alors ils jeûneront. Qu'est-ce que ça signifie? Bien, les disciples de Jean-Baptiste jeûnaient rigoureusement à l'exemple de leur maître. On sait que Jean-Baptiste vivait une vie d'austérité, une vie d'ascète, et il prêchait beaucoup la repentance. Et lui-même pratiquait le jeûne, et ses disciples, il disait qu'ils jeûnaient aussi. Les pharisiens de l'époque, pareillement, jeûnaient deux fois par semaine, deux jours par semaine, le jeudi et le lundi, selon la tradition juive, parce que Moïse serait monté sur la montagne du Sinaï un jeudi et il serait redescendu un lundi. Alors c'était devenu plutôt rituel, cette sorte de jeûne. Et Jésus n'a pas conduit ses disciples à jeûner de cette manière-là. Du moins, il n'a pas conduit ses disciples à jeûner tant qu'il était sur terre. Mais après, il a dit: quand les jours viendront, quand l'époux sera enlevé, c'est-à-dire quand Jésus aura passé par la croix et qu'il aura été enlevé et qu'il sera dans la gloire, à ce moment-là, ils jeûneront. Ce sont les disciples eux-mêmes qui en éprouveront le besoin, et il n'est pas dit que Jésus n'a pas dit « vous devrez jeûner ». Il a dit « ils jeûneront », toujours dans cette pensée que c'est eux-mêmes, non par contrainte, mais par un acte volontaire, parce qu'ils sont conduits par le Saint-Esprit à le faire, qui se mettront à part dans le jeûne et dans la prière. Le jeûne, donc, n'est pas une obligation, là encore, mais plutôt une prise de conscience, c'est-à-dire c'est une décision entre nous et Dieu, d'une réponse à son appel, de se mettre à part, de se tenir dans la prière et de chercher sa face. Voilà, je réponds à cet appel en me tenant dans le jeûne. Un troisième aspect, c'est le vrai et le faux jeûne dans Matthieu chapitre 6 et au verset 16. Dernier aspect de l'enseignement de Jésus. Donc on a trois textes, je vous les ai signalés, trois textes dans la parole où il y a Jésus par rapport au jeûne, et là il explique ce qu'est le vrai jeûne. Lorsque vous jeûnez, Matthieu 6, 16, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Dans le contexte, Jésus va parler de trois éléments importants de la foi, à partir du verset 1er du chapitre 6, qui sont d'abord les offrandes, il va expliquer ce quoi ça consiste, la prière, et vous avez le Notre Père qui est exposé ici, et puis enfin, il termine par cette troisième grande partie d'expression de foi qui est le jeûne. Lorsque vous jeûnez, voilà comment il commence. Donc le Seigneur ne dit pas si vous jeûnez, mais lorsque vous jeûnez, si bien qu'il s'attend à ce que les disciples le cherchent dans le jeûne et dans la prière et qu'ils mettent en pratique le jeûne. N'ayez pas un air triste, alors c'est le message de Jésus. La pratique du jeûne, effectivement, à l'époque, était accompagnée de démonstrations de pleurs, de tristesse, d'abattement. On déchirait ses vêtements, on se répandait de la cendre sur la tête et on feignait un petit peu l'air triste et abattu. Ces signes extérieurs étaient d'ailleurs devenus pour certains des signes un petit peu pour se montrer et pour se mettre en valeur, pour montrer qu'ils jeûnaient, qu'ils étaient de grande piété. Et donc, on déviait un peu du sens du jeûne. Ils cherchaient plutôt à s'attirer le regard des autres et l'approbation des autres en montrant qu'ils étaient plus spirituels, mais en réalité, eh bien, ils ont leur récompense, c'est ce que dit Jésus. Hein. Ceux qui le font d'une manière hypocrite, c'est pour se montrer aux hommes, eh bien, en vérité, ils ont leur récompense. Donc Jésus l'explique bien, il ne dit pas que le jeûne n'est pas bien, mais il dit que cette manière-là de jeûner n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Parce que ces hommes cherchent la gloire des hommes, ils cherchent à être estimés des autres, et ça n'a aucun effet devant Dieu, ça n'est pas valable. Tandis que le vrai jeûne, à partir du verset 17, « Mais quand tu jeûnes, donc il y a le vrai jeûne qui est là, mentionné, quand tu jeûnes, parce que le faux jeûne étant condamné, le vrai jeûne est valorisé, eh bien voilà comment tu dois faire, tu ne dois pas être hypocrite, c'est entre toi et Dieu, c'est dans le secret. » Et on voit que Jésus se tient dans la ligne des prophètes de l'Ancien Testament qui condamnaient le faux jeûne et valorisaient le vrai jeûne. Je vous cite trois exemples qu'on trouve dans l'Ancien Testament des prophètes. Bien sûr, Ésaïe 58, un célèbre passage sur le jeûne dans le prophète Ésaïe, qui condamne le jeûne formaliste. Ésaïe 58, verset 4. Et le Seigneur reprend son peuple au travers du prophète parce qu'il jeûne d'une manière hypocrite. « Voici, vous jeûnez pour disputer, pour vous quereller, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir un jour où l'homme humilie son âme, courbait la tête ?» Comme un jonc se coucher sur le sac et la cendre, est-ce là ce que tu appelles un jeûne, un jour agréable à l'Éternel ? Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libre les opprimés, et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim, et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le, et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore. » Donc, effectivement, il y avait une manière de jeûner qui n'était pas correcte, qui était juste sur l'apparence, et le fond du cœur n'était pas changé. Ils étaient remplis de haine, remplis d'amertume, remplis de violence, etc. Et Dieu dit non. Ça, ce n'est pas une manière de jeûner. La forme de l'humiliation extérieure n'est pas caractéristique du jeûne. C'est le témoignage qui doit être conforme à la parole de Dieu. Donc nous devons régler des choses dans notre vie. Si nous avons des choses qui ne sont pas encore en règle avec Dieu, il nous faut les mettre droites devant Dieu et ainsi pratiquer un vrai jeûne qui honore le Seigneur, non pas ce jeûne-là. Alors vous avez aussi Jérémie, donc j'ai dit Ésaïe, Jérémie et Zacharie. Trois prophètes insistent sur le vrai jeûne. Donc Zacharie chapitre 14 et au verset 12, je vous lis ce verset, Zacharie, chapitre 14 et au verset 12, alors, qui dit, voici, alors, Jérémie, chapitre 14, verset 12, Zacharie, c'est après, Jérémie, chapitre 14, voilà. Je vous le lis. S'ils jeûnent, je n'écouterai pas leurs supplications. S'ils offrent des holocaustes et des offrandes, je ne les agréerai pas, car je veux les détruire par l'épée, par la famine, par la peste. Alors, s'ils jeûnent, je ne les écouterai pas. Donc, ils jeûnaient d'une manière qui n'était pas conforme à Dieu, même les offrandes, les holocaustes. Ce n'était pas comme Dieu le voulait, ce n'était pas un jeûne qui était écouté, et donc il fallait jeûner d'une autre manière. Le jeûne hypocrite ne monte pas dans le trône de Dieu, vers le trône de Dieu. Et enfin, donc Zacharie, le dernier prophète qui le précise, mais c'est quand même, c'est dans Zacharie 7, verset 4, c'est quand même mentionné à plusieurs reprises. Zacharie 7, 4, « La parole de l'Éternel des armées me fut adressée en ces mots. Dis à tout le peuple du pays, aux sacrificateurs, quand vous avez jeûné et pleuré au cinquième et au septième mois, et cela depuis 70 ans, est-ce pour moi que vous avez jeûné? Et quand vous mangez et buvez, n'est-ce pas vous qui mangez et qui buvez? Ne reconnaissez-vous pas les paroles qu'a proclamé l'Éternel par les premiers prophètes lorsque Jérusalem était habitée et tranquille avec des villes alentour et que le midi et la plaine étaient habités? La parole de l'Éternel fut adressée à Zacharie en ces mots. Ainsi parlait l'Éternel des armées. Rendez véritablement justice. » Ça rejoint un petit peu ce que disait Ésaïe. « Ayez les uns pour les autres de la bonté et de la miséricorde. N'opprimez pas la vengeance sur la veuve. N'opprimez pas la veuve et l'orphelin, l'étranger et le pauvre. Et ne méditez pas l'un contre l'autre le mal dans votre cœur. Voilà ce que Dieu désire. Et si effectivement nous jeûnons d'une manière superficielle, tout en étant en contradiction avec l'Écriture, eh bien ça pose problème. Le vrai jeûne n'est pas dans l'apparence, il doit être accompagné d'une piété authentique. Donc ce n'est pas parce que certains pratiquent mal le jeûne qu'il faut dire le jeûne ça ne sert à rien ou il ne faut pas jeûner, non. Il faut jeûner mais de la bonne manière. Parce que par peur de faire des erreurs, certains ne font rien. Et ils se privent ainsi de grandes bénédictions. Si je reviens à Jésus, Jésus parle ici du jeûne individuel. Lorsqu'il dit « quand tu jeûnes, entre dans ta chambre, dans le lieu secret ». Il y a deux sortes de jeûnes. Il y a le jeûne collectif et le jeûne individuel. Parce que quelquefois, le peuple entier était appelé à jeûner. On le voit par exemple dans le prophète Joël. « Publiez un jeûne, une convocation solennelle, assemblez les vieillards, tous les habitants du pays dans la maison de l'Éternel votre Dieu, et criez à l'Éternel. » Dans Joël chapitre 1, verset 14, tout le peuple, donc tout le peuple d'Israël, les croyants, étaient invités à jeûner d'une manière collective. Alors c'est important de pratiquer les deux, vous voyez. Il y a les jeûnes qu'on pratique dans l'église, où ensemble nous nous attendons à Dieu, nous cherchons sa face, nous prions pour des sujets. Et puis il y a les jeûnes qu'on pratique d'une manière individuelle, c'est-à-dire chez soi, ou d'une manière discrète. Et il ne s'agit pas de s'en vanter, Jésus le dit, que ça soit secret. Il ne s'agit pas de le dire autour de nous d'une manière comme ça inconsidérée. C'est entre nous et Dieu. Jésus parle du lieu secret, et Dieu te le rendra. Et si vous regardez Matthieu chapitre 6, vous voyez que la prière, il en est de même. Il est question dans ce chapitre des offrandes, je l'ai dit, de la prière et du jeûne. Mais quant au lieu secret, c'est-à-dire cette intimité qu'on va avoir avec Dieu, elle est mentionnée aussi dans le cadre de la prière au verset 6. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret et ton Père qui te voit dans le secret te le rendra. Vous avez la même formule pour le jeûne. Au verset 17, quand tu jeûnes, parfume ta tête, lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui te voit dans le secret te le rendra. Vous avez la même formule, vous avez le même lieu secret, soit pour prier, soit pour jeûner, bien sûr jeûner prière, et donc c'est ce que Dieu attend de nous, que le chrétien prenne le temps. Eh bien, le temps habituellement consacré au repas, de dire, ben voilà, aujourd'hui je vais le passer dans le jeûne, dans la prière, en cherchant sa face. Puis après, si vous avez des activités, bien les reprendre. Mais passer ce temps dans la recherche de Dieu. Il faut savoir, bien sûr, que le jeûne, c'est fatigant physiquement, et il est conseillé de limiter ses activités quand on jeûne. Vous avez un verset qui dit, au psaume 109 et au verset 24, « Mes genoux sont affaiblis par le jeûne ». Donc il y a une fatigue physique. Mon corps est épuisé de maigreur. David exprime ici un jeûne qu'il a fait, certainement un jeûne prolongé, et ça le fatigue. Et c'est vrai, la fatigue, faiblesse due au manque de nourriture, le corps se fatigue plus vite. La langue devient un petit peu pâteuse. Et on a des sensations physiques désagréables. Mais en le pratiquant régulièrement, on arrive à mieux vivre ces choses et à moins ressentir la fatigue. C'est exactement pareil quand un sportif fait du jogging pour s'entraîner régulièrement. Bien, au bout d'un certain temps, alors on commence progressivement, on fait quelques kilomètres et puis après on se prépare pour un marathon. Mais en s'entraînant régulièrement, ben, on n'a pas les douleurs qu'on aurait si directement, là, du jour au lendemain, on fait un marathon, c'est sûr que là, on va souffrir beaucoup. Donc, le jeûne régulièrement, individuel, nous permet de vivre ces choses et progressivement, bien de les... Et puis après, bien vous pouvez aller plus loin, suivant vos possibilités, il faut savoir aussi nos limites. Donc, en cas de jeûne prolongé, il ne faut pas hésiter à beaucoup boire pour justement pallier à ce problème de la faim. Et lorsqu'on jeûne, par exemple, sur une durée de 5 jours, comme j'ai eu l'occasion de le faire en Suisse, c'était avec tous les chrétiens, toutes sortes de chrétiens, dans des grands rassemblements chrétiens, mais il y avait constamment des boissons, soit des différentes sortes de boissons, même du bouillon, mais sans légumes, et que des boissons, le soir, le midi, en beaucoup de circonstances, enfin, à diverses occasions, on pouvait boire. Et c'était conseillé de boire beaucoup. Et après un jeûne prolongé, il faut faire attention quand on remange aussi. Parce que si l'estomac s'étant rétréci, si vous vous jetez sur la nourriture d'un coup, vous risquez de vous faire mal au ventre. Donc il faut remanger aussi progressivement, commencer par des choses comme des choses un petit peu légères, et puis ensuite la nourriture plus solide. Je termine avec un dernier point, c'est la durée du jeûne. Combien de temps est-ce qu'on doit jeûner? Ben ça, c'est à vous de déterminer. C'est entre vous et Dieu. Mais il vaut mieux se fixer un temps avant de commencer à jeûner. Et de se dire, voilà, je vais jeûner pour un repas, pour deux repas, pour une journée, pour deux jours, pour trois jours. Comme ça, on se prépare à l'approche du jeûne. Déjà, on se prépare psychologiquement, on se prépare spirituellement et on se prépare physiquement. Car nous sommes corps, âme, esprit. Et quand on veut jeûner, il faut se préparer. Alors, s'il arrive qu'on n'arrive pas au terme, on a fixé une journée, on n'arrive pas, ou deux jours, on n'arrive pas. Bien, il faut voir le positif, il faut voir le temps qu'on a passé dans le jeûne et dire merci Seigneur pour ce temps. Et puis si on n'arrive pas, ben, on essaiera une prochaine fois, c'est pas grave. Peut-être qu'on a été trop ambitieux et qu'on a dit d'un coup on va franchir une étape, mais on n'était pas prêt, donc on n'a pas tenu. Je vous donne quelques versets pour vous montrer des durées. Donc le premier, il y en aura quatre, hein. Le premier, c'est la durée, c'est la journée qui est souvent utilisée dans la Bible. Dans Juges chapitre 20 verset 26, tous les habitants d'Israël et tout le peuple montèrent et vinrent à Bethel. Ils pleurèrent et restèrent devant l'Éternel et ils jeûnèrent en ce jour jusqu'au soir. Ils offrirent des holocaustes et des sacrifices en communion devant l'Éternel. Voilà un exemple. Vous avez aussi un autre exemple, c'est le verset suivant, 2 Samuel 1:12. Ils firent une cérémonie funèbre, pleurèrent et jeûnèrent jusqu'au soir à cause de Saül et de son fils Jonathan, du peuple de l'Éternel et de la maison d'Israël qui était tombée par l'épée. Les Juifs comptaient la journée du soir au soir suivant. Nous, on a tendance plutôt à partir du matin jusqu'au soir, ou jusqu'au lendemain matin. Donc si on jeûne une journée, on peut commencer petit déjeuner, repas du midi, repas du soir, ça fait 3 repas qui sont jeûnés. Passer ces 3 heures, prendre 1 heure le matin, 1 heure le midi, 1 heure le soir, dans la prière, dans le jeûne, et reprendre le repas le lendemain matin, le jour suivant. Voilà l'exemple du jeûne d'une journée. Bien sûr, je précise que pendant ces heures consacrées au repas, on les passe plutôt dans la prière. Si on a des activités, bien on peut les faire quand même. Bien sûr, on sera un petit peu plus limité physiquement. Deuxième point, les 3 jours de jeûne d'Esther. Alors là, on m'a aussi souvent posé la question par rapport à ce jeûne, dans Esther chapitre 4, verset 16. « Va, rassemble les Juifs qui se trouve à Suse, et jeûnez pour moi sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes, puis je rentrerai chez le roi, malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. » Alors vous avez ici la précision qui est sans manger ni boire. Doit-on pratiquer un tel jeûne aujourd'hui? Il faut savoir le contexte. Esther a reçu cette directive dans un contexte bien particulier, c'était que le peuple juif était sur le point d'être exterminé, si vous connaissez le livre d'Esther. Donc le roi avait donné ses ordres, et bien les juifs allaient mourir. Et elle a dit, je vais aller voir le roi, je vais demander une inversion de ce décret. Et elle a demandé au peuple donc de jeûner, elle-même a jeûné, de cette manière-là. Mais en fait, c'est elle qui l'a reçu comme ça, dans cette circonstance-là. Et c'est difficile pour nous de dire, ben, on va appliquer des choses qui ont été faites, mais nous on a un autre contexte, on a une autre manière. C'est surtout important de jeûner de la manière dont Dieu nous conduit, dont Dieu nous montre. Le fait de ne pas boire sur une période prolongée peut être dommageable pour la santé, il faut faire donc attention. Et ne pas boire toute une journée, c'est déjà assez important, mais 3 jours, c'est assez conséquent. Donc il faut avoir aussi de la sagesse, et il ne s'agit pas de reproduire des choses que d'autres ont fait si on n'a pas nous-mêmes de directives particulières. Qu'en est-il du jeûne de Daniel? Vous savez que Daniel, on dit qu'il a jeûné aussi avant, quand il, dans le Daniel chapitre 1, verset 8. Mais si on regarde le passage attentivement, moi on m'a posé la question dernièrement, et le jeûne de Daniel. Si vous lisez le passage de Daniel, vous ne verrez pas le mot jeûne écrit, simplement il s'abstenait de certaines nourritures. C'est pourquoi moi, je, personnellement, je ne le considère pas comme un jeûne. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, c'est dans Daniel chapitre 1 et au verset 8. Voilà. Daniel 1. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu fit trouver Daniel en faveur et grâce devant le chef des eunuques. Le chef des eunuques dit à Daniel, « Je crains mon seigneur le roi qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Vous exposeriez ma tête auprès du roi. » Alors Daniel dit à l'intendant, à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, Anania, Michaël et Azaria. « Éprouve tes serviteurs pendant 10 jours, et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. » Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu as vu. Il leur accorda ce qu'ils demandaient et les éprouva pendant 10 jours. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. L'intendant emportait les mets et le vin qui leur étaient destinés et il leur donnait les légumes. Alors certains ont pensé donc de passer 10 jours dans le jeûne, mais en ne prenant que des légumes. Mais en réalité, il n'est pas question ici d'un jeûne et de prière. En réalité, il est question ici d'une pratique religieuse, c'est-à-dire que les Juifs ne mangeaient pas certains mets qu'ils considéraient comme souillés, notamment le porc, etc. Et ils ne voulaient pas manger cette nourriture-là, donc c'est par conviction religieuse qu'il a pris cette décision. Et à cause du fait que ces aliments étaient interdits, il a choisi d'obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, mais il n'y avait pas d'abstinence de nourriture puisqu'il mangeait des légumes, il mangeait autre chose. Donc on ne peut pas proprement parler de jeûne ici. Voilà, c'est le contexte des croyants juifs sous la loi et nous sommes chrétiens sous la grâce. Troisième point, c'est les 7 jours de jeûne en signe de deuil. Vous l'avez dans 1 Samuel chapitre 31 et au verset 13. Où vous avez le peuple dont il est dit ils jeûnèrent 7 jours. Voici un jeûne donc assez prolongé, 7 jours de jeûne, où il y avait la tristesse, le désarroi face à la mort d'un roi et la recherche de Dieu, et puis exprimer sa tristesse devant Dieu. Et puis enfin les 40 jours, le quatrième et dernier point, les 40 jours de Jésus. J'en ai parlé en introduction. 40 jours de jeûne et Moïse a fait la même chose. Donc vous avez 2 versets, Matthieu 4, on l'a lu tout à l'heure, hein. Il a jeûné 40 jours et il eut faim. L'évangile de Luc d'ailleurs précise, il ne mangea rien durant ces jours-là. Et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Et puis vous avez le texte où il est dit que Moïse aussi a jeûné 40 jours, il n'a pas mangé et il n'a pas bu pendant 40 jours sur le mont Sinaï. Là, ce sont des périodes exceptionnelles, surtout qu'il est précisé pour Moïse qu'il n'y a pas eu d'eau. Donc c'est du domaine du miracle, quand il n'y a pas d'eau sur une si longue durée. En conclusion, on va terminer cette réflexion. Donc il nous reste encore à voir les buts du jeûne. Je n'ai pas voulu les voir aujourd'hui car ça nous emmenait trop loin. Il y a au moins 10 buts, 10 raisons pour lesquelles nous pouvons être amenés à jeûner dans la parole de Dieu. Nous les verrons une prochaine fois. Maintenant, on va prier le Seigneur. On a parlé un petit peu du jeûne, peut-être certains ont revu des choses qu'ils connaissaient déjà, mais je crois que le jeûne c'est avant tout un appel de Dieu qui va nous pousser à nous mettre à part pour chercher sa face, pour passer du temps dans la prière. C'est vrai que notre corps, notre chair nous dira toujours non, surtout ne le fais pas, tu vas être fatigué, ça va pas bien se passer, tu vas souffrir, c'est excessif, tu es mystique, etc. C'est à chacun maintenant de se déterminer, de se placer devant Dieu. On sait que le jeûne était pratiqué, bien sûr, que Jésus l'a dit par rapport aux disciples, ils jeûneront. Il a dit, quand tu jeûnes, donc il s'attend à ce que nous prenions cette direction. Bien sûr, chacun avec ses capacités, ses possibilités. Ce message, il est vrai, n'est pas pour ceux qui recherchent la facilité, la bénédiction instantanée, mais pour celui qui aspire à aller plus loin avec le Seigneur, qui souffre peut-être quand il voit une partie de l'Église dans le sommeil, qui a soif davantage de Dieu, qui veut vraiment aller plus loin avec Dieu. Eh bien, le jeûne et la prière est un chemin qui nous mène vers des victoires sur nous-mêmes, des victoires aussi sur la puissance des ténèbres. On verra les différents buts du jeûne la prochaine fois, mais on va prier déjà. Merci Seigneur pour ta parole qui nous rappelle cet appel à nous mettre à part pour te prier, pour chercher ta face. C'est ce que nous désirons, mon Dieu. Te prie de conduire mon frère et ma sœur ce matin à aller plus loin, à faire un pas de plus. Et peut-être celui qui s'attend vraiment à des directives, qui a besoin vraiment d'une visitation nouvelle, de rechercher une communion avec toi plus intense. Nous ne voulons pas rester là où nous en sommes aujourd'hui, mais tu nous engages à aller plus loin, à passer du temps dans le jeûne et à faire, Seigneur, ta volonté, à chercher ce que tu désires pour chacune de nos vies. Je te prie aussi pour celui peut-être qui vit dans une situation de lien, de difficulté, et dont il n'arrive pas à se débarrasser. Et nous savons que le jeûne aussi, par ce moyen-là, tu peux, Seigneur, accomplir des miracles, des prodiges de délivrance dans la vie des bien-aimés. Nous te remercions de ce que tu as accompli et nous te prions de nous utiliser dans ce moyen. À toi toute la gloire, Jésus. Amen.